Donc j'espère que dans quelques semaines, vous prendrez connaissance à la fois de sa version imprimée traditionnelle, élégante, et que vous pratiquez tous depuis un certain nombre d'années, en tout cas depuis 1990, et puis aussi sous sa forme électronique, et ça nous introduit au thème même de ce débat, puisque nous disposons, grâce à l'hébergement et au service de l'ENSIB, deux pages web sur le réseau, qui sont consultés d'une manière tout à fait encourageante. Je regardais il y a quelques jours les statistiques et c'est tout à fait encourageant que de pouvoir, autrement que par ce simple rendez-vous annuel du rapport, vous donner des informations à la fois sur les activités et les sujets traités par le Conseil supérieur de la bibliothèque. Il se trouve que le rapport de cette année, je m'en excuse auprès de vous, ça n'est pas d'une extraordinaire originalité, ça n'est pas totalement imprévu, traite en grande partie de la question des ressources électroniques dans les bibliothèques, d'où le thème que nous avons retenu pour cet après-midi. Alors, pour aborder cette question, cinq personnalités ont accepté de débattre entre elles et avec la salle sur ce thème, et je les en remercie bien sûr très, très vivement. Et je propose qu'avant de rentrer dans le débat proprement dit, auquel vous pourrez vous associer, puisqu'on traitera quatre grands thèmes successifs, et à chaque fois on passera la parole à la salle, avant d'entrer dans le vif du débat, bien, je pense qu'on va présenter chacun des intervenants et demander à chacun de dire, au fond, quelle est sa position par rapport à ce problème, qu'est-ce que concrètement il fait, comment il agit par rapport à ces questions, et aussi, au fond, peut-être quelques éléments de réflexion plus théorique déjà pour commencer. Alors, je propose de donner peut-être en premier la parole à Ivan Boserup, qui nous vient du Danemark. C'est peut-être aussi pour ça que je l'interroge en premier, parce que c'est lui qui vient du plus loin. Qui est pour l'instant, je crois, pour deux années à la bibliothèque nordique, auprès de la bibliothèque Sainte-Geneviève, et qui, au cours de ce débat, nous donnera peut-être un certain nombre d'éclairages sur la situation des pays nordiques, des pays scandinaves, sur cette question. Donc, je donne la parole tout de suite à Ivan Boserup.
Bien, merci beaucoup. Pour me présenter très brièvement, j'ai travaillé 20 ans à la Bibliothèque Royale à Copenhague, et après ces 20 ans, j'ai mis sur CD-ROM un nombre de banques de données de la Bibliothèque Royale et une cinquantaine d'œuvres littéraires danoises classiques du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Il y a 3 ans, j'ai établi avec une petite équipe le serveur, ou plutôt les serveurs web de la Bibliothèque Royale, du ministère de la Recherche du Danemark et du ministère de la Culture au Danemark. Depuis presque une année, je suis donc, comme on vient de dire, bibliothécaire délégué à la Bibliothèque Nordique, donc délégué des pays scandinaves à la Bibliothèque Nordique, ici à Paris. C'est un département de la Bibliothèque Sainte-Geneviève et c'est donc une bibliothèque qui, depuis 1920, est partiellement subventionnée par les pays scandinaves. D'ici un mois environ, la Bibliothèque Nordique sera, je l'espère, sur le web aussi, avec un petit site intéressant pour les chercheurs et le grand public. Un des points de vue que je voudrais bien essayer de soumettre ici pour vos réflexions, c'est qu'à mon avis, il y a deux groupes fondamentalement différents de documents électroniques pour le moment auxquels on travaille, entre autres dans les pays scandinaves et sans doute aussi ici en France. D'une part, il s'agit de numériser des textes qui existent d'une autre manière. Des textes et aussi des images, bien sûr, mais c'est d'une manière ou d'une autre une réédition d'un document qui existe aussi d'une autre façon. Ça, c'est fort intéressant, c'est très important, ça peut donner accès à un public beaucoup plus vaste, à un coût beaucoup moins élevé qu'avant, à des ressources d'information à niveau global. L'autre groupe de documents électroniques serait, à mon avis, des sites spécialisés sur telle ou telle matière. Ça peut être sur un compositeur, une certaine tradition artistique, n'importe quoi dans le domaine, en tout cas culturel, historique, linguistique, qui est un grand intérêt. Et donc un site qui se développe De temps en temps, peut-être, on en prend certaines parties, on fait un CD-ROM ou on fait un livre, mais le site se développe pour autant qu'il y ait des ressources pour le développer, en tout cas. Et c'est d'une certaine manière aussi un document électronique, à mon avis, un tel site. Dans les pays nordiques, ce genre de site est en voie de développement maintenant, bien sûr, à un niveau public. C'est les ressources du ministère de la Culture dans les divers pays qui, plus ou moins rapidement, essayent de faire établir ce genre de site.
Alors, on vient d'évoquer, Ivan Bosrup, la Bibliothèque royale du Danemark. La transition est évidemment parfaite avec votre voisin, Daniel Renoux, pour nous parler de la Bibliothèque nationale de France.
Tout à fait. Comme vous savez, la Bibliothèque nationale de France a entrepris de numériser une très grande partie de titres, une très grande quantité de titres, puisque environ 100 000 titres sont en voie de numérisation, 86 000 le sont déjà, 300 000 images vont être numérisées, avec un double objectif, communiquer sur place dans une bibliothèque qui avoisine les 4 000 places, 3 700 places, et d'autre part communiquer à distance. Et je crois que si vous m'avez demandé de venir, c'est parce que en matière de communication à distance, depuis octobre dernier, la Bibliothèque nationale de France a pris l'initiative de mettre sur Internet, sous le nom de Gallica, une collection très significative, puisqu'il y a environ 3000 textes et 10 000 images qui sont relatifs au 19e siècle français, à la culture française au 19e siècle. Tout ceci sur Internet, ce qui représente à peu près 1 million de pages et ce qui, à ma connaissance, est aujourd'hui la bibliothèque numérique la plus importante sur Internet. Pour être bref, je dirais que tout cela est le fruit d'un travail d'équipe, bien entendu. La Bibliothèque nationale de France, n'oublions pas, c'est 2500 personnes, c'est une dizaine de directions. Et donc ce type de travail est toujours le fruit de collaborations multiples, aussi bien de personnes qui s'occupent des collections que de personnes qui s'occupent de diffusion, de technique ou de relations avec des partenaires extérieurs. En ce qui concerne ma position, elle est assez simple. D'une part, j'ai la responsabilité des systèmes d'information. Donc ça veut dire que j'ai la responsabilité de l'aspect technique de la numérisation, aussi bien les chargements sur le futur système d'information et la diffusion sur place que la diffusion à distance, que nous préparons à l'heure actuelle les suites de Gallica, qui aura d'autres suites et d'autres développements. Et puis par ailleurs, il se trouve que j'ai une position singulière qui est d'avoir la responsabilité de la planification générale du projet depuis 4 ans, et qu'à ce titre, j'ai vu progresser ce projet de numérisation. Mais la table ronde que vous avez provoquée, c'est aussi sur les documents électroniques en général, et je me rallierai volontiers à la distinction de mon voisin. Effectivement, numériser des documents, pour une partie, c'est reproduire pour diffuser. Il ne faut pas oublier toute la partie de publication électronique originale qui ne se retrouveront jamais sur papier. Je vais prendre un exemple très simple. Le futur catalogue de la Bibliothèque nationale de France, 7 millions de références en ligne, il n'y aura pas d'édition papier. Donc c'est un produit purement électronique qui a son originalité et ses modes de diffusion. Et je crois que ça vaut la peine d'être souligné. Enfin, je m'arrêterai là. Je crois que nous sommes dans un secteur où les initiatives sont multiples, c'est-à-dire qu'elles viennent aussi bien du secteur de l'édition que du secteur des bibliothèques, comme on vient de l'évoquer. Et puis la Bibliothèque nationale de France occupe à cet égard une position un peu singulière, puisqu'elle doit s'occuper du dépôt légal des publications électroniques. Autre sujet tout à fait intéressant sur lequel des contacts internet sont pris au plan international. Voilà un petit peu comment je situerai les choses pour introduire la discussion comme vous le souhaitiez.
Merci. Alors, François Riner, vous dirigez la médiathèque de la Cité des sciences et de l'industrie. Cité des sciences et de l'industrie, où actuellement il y a une grande exposition intitulée « Nouvelle image, nouveau réseau ». Et je dois dire que vous êtes un bibliothécaire, au fond, un peu singulier en France, puisque vous êtes à la fois directeur de la médiathèque, mais aussi directeur des réseaux au sein de la Cité des sciences. Quelque chose d'un peu particulier.
Oui, depuis novembre 1996, l'organisation de la cité a été transformée et elle est divisée en quatre secteurs. Et un des secteurs s'appelle Médiathèque et Réseau. Il regroupe, outre la médiathèque, dont j'avais jusque-là la responsabilité, l'informatique, la production audiovisuelle, la production de documents interactifs et l'actualité scientifique, le département qui s'occupe de l'actualité scientifique. Ça représente environ 250 personnes, dont environ 150 pour la seule médiathèque. Mais je pense effectivement qu'il est symptomatique que dans un établissement comme celui-là, dont la vocation est la vulgarisation scientifique, technique et industrielle, on n'ait pu en arriver à une conception qui me paraît fondée, qui finalement abolit en tout cas en partie la distinction entre la production et la consommation de documents électroniques depuis fort longtemps, puisque dès l'origine de la cité, la question s'est posée de savoir quels étaient les supports que l'on utiliserait pour donner à voir l'ensemble des informations qu'on veut donner aux visiteurs, pas exclusivement à la médiathèque d'ailleurs, mais aussi dans les espaces d'exposition et dans les autres espaces de la cité, puisqu'il y a beaucoup d'activités diverses à la cité. Pour donner à voir tout cela aux 3,5 millions de visiteurs annuels, une grande panoplie de moyens ont été utilisés, moyens qui ont commencé pour certains par être analogiques, puis qui sont devenus partiellement numériques, et l'on va, mais on reviendra certainement là-dessus dans le débat, vers une unification des modes d'accès et des modes de stockage de ces informations. Je pense que la particularité par rapport à mes voisins de la Cité des sciences et de l'industrie, outre son caractère d'organe de vulgarisation destiné à un très vaste public, est aussi l'usage abondant que nous faisons d'images, et d'images animées en particulier, et donc une conception très unimédia de ce que nous avons à mettre à la disposition du public. Mais je suppose que ça aussi, nous y reviendrons.
Oui. Alors, vous disiez que votre place était en quelque sorte singulière à cette tribune. Je me tourne vers Jean-Pierre Sakoun, qui, lui, est éditeur électronique ou rééditeur électronique, si on reprend la définition d'Yvan Bosrup. Bibliopolis, c'est une assez belle raison sociale. La cité des livres, les livres dans la cité, je ne sais pas exactement dans quel ordre il faut traduire les radicaux grecs. À vous.
Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis plongé dans une sorte d'étonnement absolu parce que nous sommes ici pour parler de livres électroniques et donc de virtualisation du texte. Et l'organisation de ce colloque a eu la gentillesse de nous remettre un livre vide. Et je ne sais pas où sont passées les lettres, peut-être sur Internet, peut-être sur CD-ROM, mais ils sont plus là, elles ne sont plus là en tout cas. Bon, je suis un ancien bibliothécaire qui travaillait aussi au début de l'électronique à la conception de l'INIST, ce qui a commencé à m'intéresser à ce genre de sujet. Puis j'y suis passé aussi par l'intermédiaire des systèmes d'informatisation de bibliothèques, qui était une autre manière de voir l'électronique dans les bibliothèques, pour arriver à faire de l'édition électronique. Alors d'abord de l'édition électronique de référence bibliographique essentiellement, avec effectivement la Bibliothèque nationale de France et puis l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur et l'ISSN. Mais aussi, depuis quelques années, c'est au cœur de nos efforts financiers, de nos investissements, de l'édition électronique de texte intégral, et particulièrement de texte intégral dans le domaine des humanités, c'est-à-dire de la littérature, de la philosophie, de l'histoire et aussi des langues anciennes. À la différence de ce qu'a fait la Bibliothèque nationale essentiellement, nous avons, nous, choisi de travailler en mode texte, c'est-à-dire en ressaisie des textes. Et nous avons aujourd'hui des bases de données qui représentent à peu près 1 million de pages et que nous comptons faire augmenter d'un à 2 millions de pages par an dans les 5 années qui viennent. Je voudrais insister aujourd'hui sur trois aspects qui me paraissent très importants. Le premier, c'est que dans l'expression édition électronique, il y a électronique, mais il y a aussi édition. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre un texte sur Internet ou sur un CD-ROM pour que ce soit un texte édité. Il y a une véritable question qui se pose, qui est celle de l'édition classique d'ailleurs aussi, qui est celle de l'autorité. Qu'est-ce qui vous assure que dans le Voltaire que vous allez acheter sous forme électronique, l'éditeur électronique ne s'est pas amusé à mettre trois phrases de son propre cru? La question de l'autorité, elle commence là. il faut savoir éditer, et elle continue évidemment sur le plan technique. La deuxième question sur laquelle je voudrais insister, c'est celle des ressources. Comme disent les Américains, il n'y a pas de repas gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement être invité à déjeuner, mais il y a quelqu'un qui paye. Et c'est une vraie question là aussi. La troisième, c'est celle des usages. À quoi sert le texte électronique, particulièrement le texte littéraire ou le texte historique? Dans quelles conditions devient-il intéressant? Est-ce que publier un texte d'un auteur a un intérêt, ou est-ce que c'est la masse qui constitue, qui fait naître l'intérêt? Est-ce que cette masse est suffisante par elle-même, ou est-ce qu'il faut aussi l'équiper de logiciels et d'outils qui vont permettre de l'interroger transversalement et donc d'en faire autre chose que ce qu'on fait avec du texte papier? Voilà des questions auxquelles nous sommes, nous, confrontés tous les jours, particulièrement en face de notre clientèle, qui n'est constitué effectivement que d'institutionnels, c'est-à-dire bibliothèques, centres de recherche, universités, lycées, etc. Nos publications sont des publications qui englobent toujours, qui sont toujours faites de la même manière. Et là encore, c'est un des effets intéressants de l'édition électronique. Michel Serres disait que nous n'avons plus aujourd'hui que les flèches de la cathédrale engloutie quand on regarde notre passé. Et c'est vrai, sauf à la Bibliothèque nationale de France, bien sûr, ou dans quelques bibliothèques aussi riches. Mais dans la plupart des bibliothèques en France ou dans d'autres pays, la pression du renouvellement des collections, la pression de l'usure des collections, fait qu'au bout d'une cinquantaine d'années, on ne dispose plus pour son patrimoine littéraire ou historique ou autre que d'une vision extrêmement fragmentaire de ce qu'était la production et de ce qu'était la réflexion à l'époque. Ce que nous tentons de faire, c'est de constituer des corpus qui, à chaque fois, pour chaque corpus, donnent les œuvres complètes des auteurs principaux, mais aussi une sélection d'œuvres, à chaque fois en texte intégral, de tous ceux qui ont disparu. Pour rappeler un outil qui s'appelle romancier réaliste et naturaliste, il y a effectivement tout Balzac, tout Zola, tout Stendhal, tout Flaubert, etc. Mais il y a aussi Guy, Chajalbert, Caz, Le Meunier, Séard et autres inconnus. Donc voilà ce que nous essayons de faire et dont j'espère nous parlerons un peu plus.
Alors Jean-Michel Salat, vous prenez déjà le micro. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Jean-Pierre Sakoun sur sa biographie, vous êtes dans une mauvaise position, Jean-Michel Salat, parce que vous êtes le seul à ne pas être bibliothécaire à cette tribune. Mais je connais vos talents pour la synthèse, et je sais que par ailleurs vous êtes responsable des ressources documentaires à l'ENSIB, et ça inclut les ressources électroniques.
Oui, je ne suis pas bibliothécaire, mais je suis responsable de la bibliothèque de l'école des bibliothécaires, ce qui peut paraître paradoxal. Mais c'est pas un hasard, et ça nous amène peut-être justement directement dans le sujet, parce que le département dont je suis responsable, en fait, comprend la bibliothèque, les éditions de l'école et la partie documentaire sur le site web. Et ça m'amène à rentrer dans le vif du sujet, parce que le principe que l'on a choisi, et ceci depuis 1995, c'est-à-dire depuis 1995, nous avons un site, donc le site de l'ENSIB, sur lequel il y a un certain nombre de documents dont je vais vous parler. Mais le principe général, c'est qu'on ne choisit pas ni entre les supports, donc entre l'électronique, entre le papier, ni entre les modalités de diffusion, donc bibliothèque ou édition, qui sont les deux grandes modalités, mais peut-être qu'on est en train de vivre la naissance d'autres modalités, d'une ou peut-être de plusieurs autres. Donc on ne choisit pas, on prend ce qui est le plus pertinent au moment où il faut le prendre pour rendre notre mission, pour atteindre nos objectifs. Alors je vais juste donner quelques exemples très rapides. Nous avons mis sur le site web les meilleures mémoires des étudiants. Ce site, ils sont sous la forme électronique, mais ils sont aussi à la bibliothèque sous la forme papier. On peut aussi les avoir donc par le prêt entre bibliothèques. Et si les gens veulent les acheter, en tout cas pour un certain nombre, ils peuvent aussi les acheter, on les vend à la demande. Et pour les meilleurs, on les publie même sous forme d'édition, et vous pouvez les acheter d'ailleurs sur le stand de l'ENSIB. Un premier exemple. Deuxième exemple, nous sommes éditeurs du bulletin des bibliothèques de France, donc qui est une des revues importante des bibliothécaires. Cette revue est publiée depuis fort longtemps sous forme papier. Nous l'avons mis, dès que nous en avons eu la possibilité, sous forme électronique, en texte intégral. La totalité du bulletin des bibliothèques de France est en texte intégral depuis le dernier numéro de 1995 jusqu'au dernier numéro qui vient de sortir, que vous pouvez consulter directement sur le site web. Les abonnements n'ont pas baissé, je le dis pour ceux que ça pourrait intéresser. On ne peut pas dire qu'ils ont augmenté à cause du site web. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils augmentent régulièrement. Troisième exemple, on a en projet, on sait plus qu'en projet, puisque c'est en train de démarrer, une expérience de numérisation de documents. En fait, il s'agit de numériser c'est une expérience qui est menée avec l'INRIA, le laboratoire dans l'informatique important français, et Xerox, la firme Xerox. L'objectif est de numériser le cœur de la bibliothèque, c'est-à-dire les documents les plus demandés. Les documents qui sont aussi donc les plus photocopiés, et évidemment ce qui peut poser problème pour les éditeurs, par exemple. Et là, le principe, c'est que à partir de cette numérisation, les gens ne photocopieront pas les documents, mais les imprimeront. Et ainsi, on pourra mesurer exactement les droits l'on doit aux dits ayants droit, avec un certain nombre de modalités sur lesquelles on pourra éventuellement revenir tout à l'heure. Donc voilà, simplement ce que je voulais dire peut-être pour conclure, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on est en face d'une innovation importante et qu'il faut donc faire tomber un certain nombre de barrières. Ces barrières sont... Il y a des barrières qui sont des barrières juridiques, il y a des barrières qui sont des barrières économiques, et il y a surtout des barrières qu'on a dans la tête, c'est-à-dire des barrières de raisonnement. C'est-à-dire, on est habitué à raisonner à partir d'un certain nombre de chemins, de traditions qui ont été forgées depuis très très longtemps, depuis des siècles. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut apprendre à faire d'autres chemins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconstruire un certain nombre de règles, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut ouvrir largement l'imagination.
Merci Jean-Michel d'être entré tout de suite dans le concret, parce que je crois que c'est le premier point sur lequel on pourrait réfléchir ensemble cet après-midi. On a effectivement beaucoup théorisé, on théorise encore beaucoup sur la bibliothèque virtuelle. Je dirais que les rapports précédents du Conseil supérieur des bibliothèques ne pouvaient être que des rapports pour l'essentiel prospectifs, même s'ils étaient pleins d'une claire vision des pistes qui étaient devant nous. On arrive vraiment là dans la phase de concrétisation d'un certain nombre de projets, ce qui n'est pas forcément toujours facile à analyser, parce qu'on est là à un moment obligé de figer le mouvement en quelque sorte. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde la question peut-être dans un premier temps d'une manière très pratique, que vous soyez bibliothécaire dans une ville, dans un département, dans une université. Vous allez vous retrouver tôt ou tard devant un projet concret de numérisation de corpus, de conception d'un site. Le texte qui introduisait le débat dans les documents publicitaires que vous avez pu voir, je le cite, soulignait que les bibliothèques doivent se montrer constructives et rigoureuses. Alors, j'ai envie de me tourner vers Daniel Renoux pour que, fort de son expérience de grande taille, il puisse nous dire comment être constructif et rigoureux par rapport à cela.
Écoutez, c'est un défi que vous lancez. Je vais essayer en tous les cas d'être concret. Je crois que c'est effectivement ce que beaucoup d'entre vous attendent. Je crois que la première question, bien entendu, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on veut numériser exactement ? Bon, vous savez que la Bibliothèque nationale de France a répondu de plusieurs manières. La première réponse a été de dire ce sera une bibliothèque de référence, c'est-à-dire des auteurs ou des textes majeurs qui appartiennent pour l'essentiel à la culture de langue française, mais pas seulement. Et pour citer un exemple, ce sont les grandes grammaires du français depuis le XVIe siècle à nos jours qui marquent l'histoire de la langue, ou les grands dictionnaires qui sont au cœur de cette bibliothèque de 100 000 titres dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une option. Et cette option, elle s'intéresse en particulier aux personnes qui vont venir sur place, mais elle va s'adresser aussi à la communication à distance. Une autre réponse qui a été apportée, et qui, je crois, dont nous n'avons pas le monopole du tout, c'est l'idée qu'on va valoriser des documents qui ont une grande valeur patrimoniale et qui sont très peu accessibles. Je crois que c'est une piste qui est suivie dans le monde entier par des bibliothèques italiennes, des bibliothèques françaises. Et c'est ce qui a été fait avec ce qu'on a appelé les mille enluminures, ou bien qu'on appelle maintenant, de manière plus appropriée, l'exposition Charles V et son temps. La bibliothèque a choisi, avec le concours d'un spécialiste, François Avril, des manuscrits des 14e et 15e siècles. Elle les a fait photographier avec beaucoup de soin. Et a été mis sur Internet, non seulement ces images, mais tout un corpus d'explications qui, à la fois, donne un environnement contextuel à ces images, permettent à des utilisateurs qui n'auraient jamais pu ouvrir ces manuscrits de les contempler, de les feuilleter, voire même de les imprimer, s'ils le souhaitent, avec une imprimante couleur. Donc, première réponse, c'est le quoi. Et il est évident que la deuxième question qu'il faut se poser, c'est le comment. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que soit l'on se propose de diffuser plus spécialement sur place, et à ce moment-là, un certain nombre de techniques peuvent être mises en œuvre, soit on se propose d'emblée de faire de la communication à distance, et les choix techniques sont différents. Tout à l'heure, je n'avais pas cité, parce que le contexte est tellement riche que parfois on oublie des éléments très importants, mais je n'ai pas cité l'audiovisuel. Vous savez que lors de l'ouverture en décembre 1996, dans la salle audiovisuelle, ont été communiqués des documents numérisés grâce à une régie numérique. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable tout de suite et maintenant de communiquer à distance la totalité des documents numérisés qui sont aujourd'hui communicables sur place. Mais par contre, cela est possible grâce à des solutions techniques, dont un réseau ATM qui est interne à la bibliothèque. On n'est pas, et malheureusement, capable aujourd'hui de faire de la communication à haut débit vers n'importe quel site. Donc la question du comment, hein, est également extrêmement importante. Une fois que l'on a choisi cela, et vous voyez bien que ces questions, en fait, c'est en même temps des questions de public, c'est-à-dire à qui l'on va s'adresser, pourquoi, est-ce qu'il s'agit de valoriser un certain nombre de documents en nombre limité, ou est-ce qu'il s'agit au contraire de proposer une vaste gamme de produits éditoriaux. Tout cela, évidemment, appelle des réponses différentes selon les projets. Après arrivent les questions techniques, c'est-à-dire est-ce que les documents que l'on traite peuvent être aisément reproduits, posent-ils des problèmes? Choisit-on le mode texte? Choisit-on le mode image? Et il est bien évident que selon la nature des documents que l'on se propose de numériser, les réponses également vont être différentes. Il y a également des questions de volumétrie. Il y a aussi des questions de qui fait quoi. Il est particulièrement frappant de voir qu'aujourd'hui, en Allemagne, la réponse qui est donnée à la question de la numérisation par les grandes parties des bibliothèques, c'est une réponse partiellement de traitement en interne de la numérisation. Deux centres, l'un à Göttingen, l'autre à Munich, ont été choisis par les Allemands pour traiter les objets à numériser, les documents à numériser. À la Bibliothèque nationale de France, l'option qui a été prise, c'est pour partie traiter les problèmes techniques en interne, mais surtout pour partie de les externaliser, c'est-à-dire de faire par des sociétés spécialisées le travail qui consiste à numériser les documents et à se contenter, SIC, de contrôler la qualité et de s'occuper des chargements. Toutes ces questions, évidemment, doivent être étudiées à la lumière des coûts, et il faut savoir que aujourd'hui, numériser de petite quantité de documents est relativement abordable. Par contre, la question redoutable qui se pose immédiatement derrière, c'est le stockage, le type de serveur qu'on choisit, l'indexation des données numérisées. Il ne suffit pas d'avoir son petit scanner personnel et de porter sur un disque dur de grande capacité des données numérisées. Il faut les traiter. Et je crois que beaucoup d'entre vous savent que le traitement de l'information est tout aussi important que l'information elle-même. Je dis cela parce que nous voyons ici ou là se développer une certaine pratique amateur, je dis ça sans nuance péjorative, mais qui ne se pose pas assez la question de l'exploitation ultérieure. Et ça, je crois que c'est une question majeure. On n'a pas numérisé, pour autant, si on s'est contenté d'avoir mis sur un ordinateur des documents sous forme numérique. Et puis, enfin, dernière question, il y a question de l'exploitation. Car disposer d'une base de données de documents électroniques, tout cela est bel et bon, mais il faut que cela fonctionne chaque jour. Si vous le mettez sur Internet, il faut que ça fonctionne 24 heures sur 24 et que ce soit accessible de n'importe quel pays du monde. Et par conséquent, se pose la question de savoir à qui on va confier cette exploitation. Il y a des sociétés spécialisées qui vous offrent, moyennant finance bien entendu, et on revient à la question de l'économie, l'hébergement de votre site. Donc tout cela doit être raisonné et on retrouve une question bien classique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de concevoir un projet, il faut ensuite le faire vivre. Voilà un petit peu ce que je pourrais indiquer sur le plan pratique.
Alors est-ce qu'il y a une vision scandinave de ces questions pratiques, Yvon Bozerud ?
Eh bien, merci pour la question. En fait, en me préparant pour cet après-midi ici, j'ai été un peu sur Internet, sur le web, dans les pays scandinaves, pour voir un peu quelle était la situation. Et à mon avis, enfin, on trouve là assez facilement ce que j'appellerais les éléments de la solution parfaite d'une numérisation, de documents historiques. Je n'ai trouvé aucun site où ça avait été fait, cette numérisation parfaite. Mais on trouve, par exemple, en Norvège, un site avec tous les documents médiévaux concernant la Norvège. 21 volumes, donc numérisés texte, avec une très efficace machine pour faire la recherche par mot, ou par lieu, par nom, par n'importe quoi. Mais c'est seulement le texte. On trouve au Danemark, c'est un projet auquel j'ai travaillé un peu, un projet où on a fait une double numérisation en images et en texte, avec la possibilité de naviguer facilement entre le mode image et le mode texte. Ça donne la possibilité d'ajouter des commentaires, des corrections au mode texte, puisqu'on peut n'importe quand se référer au mode image et voir quel était en fait l'original. Mais dans ce projet-là, les images sont de... Enfin, c'était fait il y a une année et demie, donc la technique n'était pas tout à fait au point comme elle est aujourd'hui. Il faut donc aller, en ce qui concerne les images, il faut donc aller en Suède pour trouver un site où on a numérisé en images des livres du 16e siècle, avec la possibilité sur Internet de faire un zoom, donc de s'approcher de plus en plus de l'original, après avoir navigué confortablement et assez rapidement de page en page, on peut faire un zoom, et donc de cette façon, à mon avis, si on combine toutes ces techniques-là en un projet, on aurait le projet, la solution parfaite.
Alors Jean-Pierre Sakoun me faisait signe à l'instant qu'il souhaitait réagir, en particulier sur la question de la double numérisation.
Oui, je voudrais intervenir sur deux choses. D'une part, la numérisation et d'autre part, pour commencer, la question de la rigueur. Effectivement, Daniel Redoux a donné un certain nombre d'éléments majeurs comme le quoi, le comment, en parlant des réseaux, etc. Mais je crois qu'il y a un élément fondamental quand on... fait autre chose que de la numérisation, c'est-à-dire quand on fait de l'édition électronique, donc qu'on apporte un savoir-faire et une valeur ajoutée, c'est effectivement le processus de numérisation et le processus qui va nous permettre de passer du papier à un document électronique utilisable par l'utilisateur en toute sécurité, c'est-à-dire en gros le processus d'édition. Et ça commence évidemment par un choix. Et puis il y a des travaux, je vais vous les détailler un petit peu parce que souvent on a le sentiment que effectivement une fois le texte saisi et relu, eh bien il a sa place sur le web. Mais ça ne suffit pas, surtout quand on traite des masses de volumes importants. Par exemple, quand nous publions une base de données comme celle dont je parlais tout à l'heure, nous publions 120 000 pages de texte, l'équivalent de 120 000 pages de texte en mode texte. Alors il va falloir commencer par faire de la préparation de copies. Qu'est-ce que c'est que la préparation de copie sur du document futur électronique ? Ben, ça consiste par exemple à s'assurer de la structure des textes. Parce que ces textes, ensuite, il va falloir les interroger. Pour les interroger, il va bien falloir mesurer quelle est l'arborescence à laquelle on veut arriver une fois que ces textes seront numérisés et interrogeables. Et ça, je peux vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple, c'est même extrêmement compliqué. Derrière, évidemment, ces textes, on ne va pas les numériser chez nous, on va les donner à numériser, comme le fait d'ailleurs la BNF, à des sociétés spécialisées dans ce domaine. Et en travaillant de préférence pour garantir l'avenir et comme un pari sur l'avenir, avec des sociétés qui utilisent plutôt des moyens automatiques et électroniques que par des sociétés, qu'avec des sociétés qui font saisir dans l'ensemble du tiers-monde, à peu de frais, les données, parce qu'on pense que dans l'avenir, c'est plutôt vers l'électronique qu'on se tournera. Alors, pour que cette saisie ait à son retour un contrôle valable, avant qu'elle ne parte, il faut faire des lots de contrôle. Quand vous faites des lots de contrôle de 5% sur 120 000 pages ou de 10% sur 120 000 pages, ça fait 10 000 pages à trier dans des corpus qui sont sous forme de livres, sous forme de photocopies, certaines venant de la Bibliothèque nationale de France d'ailleurs, même la plupart d'entre elles, sous forme d'ouvrages récents. Et puis il va falloir classer tout ça. Alors vous avez des couloirs entiers avec des armoires remplies d'enveloppes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est aussi ça, et c'est surtout ça, l'édition électronique. C'est ce travail de tous les jours, ce détail de toutes les secondes. Au retour, il va falloir contrôler, puis il va falloir coder. Parce que pour que ce soit interrogeable, il faut bien qu'il y ait des codes, des encres, quelque part, qui vont permettre de reconnaître un titre, d'un sous-titre, d'un paragraphe, d'un chapitre, etc. Les codes peuvent prendre jusqu'à 30 ou 40% du volume global des textes. C'est dire qu'ils représentent quelque chose d'énorme. Et puis ensuite, il va falloir mettre tout ça ensemble. Le texte, les logiciels, les interfaces, les interrogations. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier et ça s'invente. Je ne dirais pas que ça ne s'invente pas, au contraire, ça s'invente parce que ça n'existait pas, mais ça s'invente en tâtonnant et en constituant des savoir-faire qui ne sont pas si courants aujourd'hui. Sur le mode texte, mode image, nous avons travaillé de cette manière et nous continuons, par exemple sur le Montaigne que nous avons publié, qui offre entre autres 46 éditions différentes des essais, toutes celles publiées du vivant de Montaigne par sa fille d'alliance, etc. Et puis tous les facsimilés des éditions originales, tous les facsimilés de l'exemplaire de Bordeaux, tout ça permettant effectivement des comparaisons extraordinaires. Sur Internet et le CD-ROM, moi je me place en tant qu'éditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait vivre des textes d'une manière différente ou revivre des textes dont beaucoup ne sont pas réédités, en disant simplement qu'aujourd'hui nous publions sur CD-ROM, que notre base et notre logiciel sont prêts pour Internet, mais que nous attendons le marché, c'est-à-dire vous.